Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Et on fait un premier point sur l'actualité avec Claire Sergent. Bonjour Claire.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
On commence par cette visite qui a provoqué la colère de Pékin. Nancy Pelosi est arrivée hier soir à Taïwan.
Et nous venons en amis à Taïwan, nous venons en paix dans la région, a déclaré la chef de file démocrate à la Chambre des représentants à l'issue d'une rencontre avec la vice-présidente du Parlement taïwanais, Nancy Pelosi, qui est arrivée sans encombre sur l'île alors que la Chine s'est montrée menaçante. Les États-Unis devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine, a déclaré Pékin. Sofiane Anclouf, on a l'ambiance.
Oui, je peux vous dire que c'est même peut-être le début d'une escalade, Claire, de tensions entre Pékin et Washington à 2 mois d'un nouveau congrès du Parti communiste chinois qui doit offrir un nouveau mandat à Xi Jinping. Alors forcément, cette visite pousse les dirigeants à réagir. Des exercices militaires chinois ont été annoncés dans le détroit de Taïwan à partir de demain, ce qui inquiète le Japon voisin, qui l'a fait savoir à Pékin. Et la Corée du Sud appelle à l'instant au calme entre Washington et Pékin. Avec cette visite, c'est la stratégie économique et diplomatique de la Chine qui est remise en question. Couper Taïwan de ses liens avec l'étranger, il y a d'ailleurs très peu d'ambassades sur place. Ce déplacement de Nancy Pelosi repose la question éternelle de l'indépendance de l'île.
Et en représailles, Pékin a augmenté la pression sur les entreprises taïwanaises. Sofiane, certaines sont déjà placées sur liste noire.
Oui, une suspension qui touche déjà plus de 3000 produits alimentaires taïwanais. Une mesure qui concerne 35 des 107 sociétés taïwanaises inscrites auprès des autorités chinoises. Elle vise en particulier, on le disait, les produits alimentaires et n'est pas limitée dans le temps, c'est ce qui est important. Pékin aurait aussi dans ses cartons de nouvelles interdictions, dans le viseur en particulier le secteur industriel. Tout dépendra évidemment de l'évolution des tensions.
Merci beaucoup Sofiane Anclouf. Évidemment pour nous, Taïwan, c'est surtout un producteur de semi-conducteurs. On en parlera tout à l'heure à 7h45 avec Jean-François Dimelio.
La récession n'est pas inéluctable. Les États-Unis et l'Union européenne peuvent y échapper, assure un responsable de la Fed. Un atterrissage en douceur est possible. Ce sera la mission des banques centrales, assure le président de la Fed de Saint-Louis. Elles devront correctement changer de politique monétaire en passant d'une politique accommodante pendant la pandémie à une politique plus ferme face à l'inflation. Objectif, agir sur les anticipations d'inflation pour faire baisser la courbe des prix.
Un navire chargé de céréales en provenance d'Ukraine, le Razoni, est arrivé cette nuit à Istanbul.
Il a quitté hier le port d'Odessa avec à son bord 26 000 tonnes de maïs. C'est le premier à traverser la mer Noire depuis l'invasion russe. La Turquie souhaite qu'un bateau par jour arrive conformément à l'accord signé avec Kiev et Moscou. Mais la route semble encore longue avant d'atteindre une reprise normale du trafic. Charlotte Guerre.
Le ministre ukrainien des infrastructures a prévenu qu'il faudrait des mois avant que les exportations de céréales d'Odessa et des ports voisins n'atteignent les niveaux d'avant-guerre. Actuellement, 20 à 25 millions de tonnes de céréales sont piégées dans le pays. Il faudrait au moins 371 chargements de navires de taille moyenne pour les acheminer. C'est plus du double du trafic du pays au mois d'août de l'année dernière. Ce à quoi s'ajoute aussi une frilosité de la part des armateurs qui craignent que la Russie bombarde l'un de leurs navires. Face à cela, l'inquiétude de ne pas pouvoir soulager une crise alimentaire mondiale. Les Nations Unies parlent d'ailleurs d'un ouragan de famine. Et pour cause, l'Ukraine est un des plus grands exportateurs de blé au Liban, en Somalie, en Libye, en Érythrée ou à Djibouti. Seul point positif, les cours du blé ont repris leur niveau d'avant-crise. Reste à savoir si cela peut durer, si la Russie va oui ou non respecter son accord.
Et cette reprise des livraisons est une excellente nouvelle pour les 33 000 boulangeries en France.
Oui, parce que vous l'avez forcément remarqué en achetant votre baguette, son prix a grimpé depuis le début du conflit en Ukraine. Car même si la France produit son blé, les cours ont flambé et l'inflation est généralisée. Laura Cambeau.
La baguette tradition est plus chère. Elle est désormais vendue 89 centimes en moyenne. C'est 5 centimes de plus, soit une augmentation de 6% enregistrée la semaine dernière. Pour Dominique Enracte, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, l'envolée des prix reste maîtrisée.
Si il fallait que cette année on répercute toutes les augmentations sur le prix, il y aurait eu des augmentations de 30%. Parce que, en fait, tous les postes ont augmenté. C'est vraiment toutes les matières premières, plus l'énergie, aussi le salaire, et même les emballages. Finalement, c'est une augmentation qui a été tout à fait raisonnable.
Le prix de la baguette est un marqueur de l'inflation étudié avec attention par les consommateurs. Alors, pour éviter que le tarif n'augmente trop, les boulangers rognent sur leurs marges. Dominique Enracte craint que ça ne soit plus possible très longtemps.
Là où je suis un peu inquiet, c'est sur les prochains bilans. Si vous voulez, vraiment, on verra qu'on aura au niveau des, ne serait-ce que des matières premières, on va avoir une très très grosse hausse. Et ça se verra à la fin du bilan, en fait. Là où les marges vont vraiment réduire.
La Confédération demande des aides au gouvernement, notamment pour que les boulangers puissent changer leur four. Aujourd'hui, beaucoup, notamment en province, fonctionnent toujours au fioul et au gaz.
Le second volet des mesures en faveur du pouvoir d'achat a été adopté cette nuit au Sénat.
Et les sénateurs qui ont revu certains pans du texte, ils ont notamment voté pour allouer 20 millions d'euros à la mise en place d'une carte vitale biométrique. Un amendement porté par les Républicains, objectif lutter contre la fraude, qui atteindrait 6 milliards d'euros selon l'estimation la plus basse.
Les résultats étaient particulièrement attendus. Société Générale vient d'annoncer une perte de 1,5 milliard d'euros.
Société Générale qui fait mieux qu'attendu. Les analystes prévoyaient 2 milliards d'euros de pertes. Les revenus de ses activités dans la banque de détail et sur les marchés ont permis de limiter l'impact de la vente de sa filiale russe Rosbank. Son produit net bancaire progresse de 13% sur un an à plus de 7 millions d'euros au deuxième trimestre. Et on décryptera ses résultats avec Nicolas Darbeau, associé chez Accuracy, dans une demi-heure.
Publication de résultats également pour AXA.
Qui dépasse lui aussi les attentes. L'assureur affiche un bénéfice net en hausse de près de 3% sur un an, à plus de 4 milliards d'euros au premier trimestre. Le groupe résiste malgré le contexte difficile. Il estime l'impact du conflit en Ukraine à 300 millions d'euros.
Auchan se renforce en Espagne, Alcampo.
Ah oui, le distributeur met la main sur 235 supermarchés appartenant au groupe espagnol Dia. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué, une acquisition stratégique et l'ambition d'être leader sur ce marché. Hélène Cornet.
Auchan repart à l'offensive après l'échec de son rapprochement avec Carrefour. Le distributeur nordiste a jeté son dévolu sur l'Espagne, son deuxième marché après la France. Près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Il a conclu un accord avec Dia pour récupérer 235 supermarchés et un entrepôt. Une acquisition qui double pratiquement son parc de magasins en Espagne. Son ambition, y devenir un leader du commerce alimentaire en comptant les supermarchés et la vente en ligne. Un vrai pari dans le numéro 1 en Espagne, Mercadona est loin devant ses concurrents. Une opération qui tranche avec la politique en cours ces dernières années. Jusqu'à présent, l'idée était plutôt de se désendetter et de se séparer d'actifs non stratégiques. Auchan est sorti d'Italie et du Vietnam en 2019, de Chine l'an dernier. Le plan Renaissance a permis un retour à la rentabilité et même si le distributeur continue de perdre des parts de marché en France, il retrouve des marges de manœuvre pour d'éventuelles opportunités.
Le secteur du luxe, on vous l'a raconté souvent, est en excellente forme, y compris dans le secteur automobile.
Ah oui, l'année est bien partie pour Ferrari, avec des marges qui augmentent. Le constructeur italien a publié hier de bons résultats, qui profitent à son premier actionnaire, les Agnelli. La famille italienne enchaîne les bonnes performances grâce à ses parts dans Stellantis et la vente de son assureur Partner Ray, Mathieu Pechberti.
Les Agnelli récoltent les fruits de leur virage stratégique entamé il y a 3 ans. À commencer par Fiat, le fleuron historique de la famille italienne était distancé dans l'électrique et peu rentable. La famille a accepté de vendre Fiat Chrysler à Peugeot pour créer Stellantis et les résultats sont là. Le groupe enchaîne les hausses de marge et accélère fortement dans l'électrique. Les Agnelli se retrouvent premier actionnaire d'un géant mondial qui pèse près de 50 milliards d'euros en bourse. Une stratégie financière que l'héritier John Elkann avait déjà appliqué à Ferrari en l'introduisant en bourse dès 2016. Il détient encore 25% du constructeur de voitures de sport dont le cours de bourse a doublé. Sa société familiale Exor a aussi signé la semaine passée la vente de son réassureur Partner Ré au français Covéa. Elle récupère un généreux chèque de 8 milliards d'euros qui seront réinvestis dans les secteurs d'avenir, la santé, les technologies et surtout le luxe. Les Agnelli viennent de rentrer au capital de Louboutin et visent celui d'Armani. Preuve de sa détermination, John Elkann a fait rentrer à son conseil d'administration le gérant d'Hermès Axel Dumas pour l'épauler.